continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Il est 19h à Bamako, 15h ici à Washington. L'imam à la tête de la coalition qui réclame un changement de pouvoir au Mali a appelé ses partisans au calme dimanche après deux jours de troubles sanglants à Bamako. La tension n'en restait pas moins palpable en fin d'après-midi dans la capitale malienne avec des regroupements spontanés de centaines de personnes dans la rue, des axes importants coupés par des barrages ou des pneus brûlés, ou encore le saccage d'un tribunal et d'un siège de quartier du parti présidentiel. Pas de confrontation directe entre Bamakois et forces de sécurité tirant à balles réelles comme les jours précédents, mais une situation volatile lourde de menaces. Dans le quartier de Badalabougou, un calme précaire est revenu. Des centaines de fidèles se sont pressés dans la vaste salle aux colonnes vertes de la mosquée et à l'extérieur pour les funérailles de quatre défunts. Depuis vendredi, au moins 7 personnes ont été tuées selon des sources hospitalières. Le camp de l'imam Diko fait état d'un bilan plus lourd. En Libye, le blocage de la production de l'exportation de pétrole des champs et terminaux de Libye par les groupes fidèles maréchal Khalifa Haftar continuera, a indiqué le commandement de ses forces dans un communiqué exigeant une répartition plus équitable des revenus pétroliers dans le pays. Vendredi, la Compagnie nationale de pétrole avait pourtant annoncé la reprise de la production et des exportations de pétrole après environ 6 mois de blocage lié au conflit dans le pays. Un premier navire devait commencer le même jour à charger le brut du port pétrolier à Cédra, selon la compagnie. La Libye dispose des réserves de pétrole les plus abondantes d'Afrique. Ici aux États-Unis, l'ancien procureur spécial Robert Mueller, qui a mené l'enquête sur de possibles liens entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump lors de la présidentielle de 2016, va être convoqué devant une commission sénatoriale, a indiqué dimanche son président républicain. Les membres démocrates de la commission judiciaire du Sénat, présidée par Lindsey Graham, avaient demandé à plusieurs reprises à entendre cet ancien directeur du FBI. Puis après la publication du rapport Mueller, mi-avril 2019, Lindsey Graham avait pourtant indiqué qu'il ne souhaitait pas le convoquer. C'est terminé, avait-il déclaré début mai. Mais il est revenu sur sa décision dimanche, au lendemain de la publication par le Washington Post d'une tribune de Robert Mueller. L'ancien procureur spécial y réagissait à l'annulation par Donald Trump de la peine de prison de Roger Stone, un ami du président américain condamné pour des délits liés à l'enquête russe. Robert Mueller y défendait l'intégrité de son enquête, régulièrement taxée de partialité par Donald Trump et ses soutiens. Il soulignait aussi que Roger Stone demeurait un repris de justice condamné à juste titre. La persistance du coronavirus préoccupe les gouvernements européens qui ont annoncé dimanche de nouvelles mesures pour tenter d'éviter une deuxième vague. À la faveur du déconfinement, de nouveaux foyers sont apparus en Europe, le continent le plus endeuillé, bien que la situation paraisse sous contrôle pour le moment. Les autorités sont sur le pied de guerre et le président américain Donald Trump est apparu la veille pour la première fois pourtant en public, un masque de protection lors d'une visite à l'hôpital militaire Walter Reed dans la banlieue de Washington a une forte valeur symbolique. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 134 000 morts. Le Premier ministre français Jean Castex est arrivé dimanche en Guyane pour une visite express afin de montrer la pleine mobilisation de l'État dans ce territoire français d'Amérique du Sud confronté à la pandémie de COVID-19. Cette pandémie continue de progresser rapidement en Amérique latine avec plus de 71 000 morts au Brésil, 11 000 morts au Chili et au Pérou, mais aussi au Moyen-Orient où elle a fait plus de 20 000 morts, dont plus de la moitié en Iran. La décision de la Turquie de transformer en mosquée l'ex-basilique Sainte-Sophie, un haut-lieu de l'orthodoxie, est vécue comme une provocation en Grèce et risque de tendre davantage les relations entre Ankara et Athènes, soulignent les responsables grecs et les analystes. L'annonce a provoqué un tollé international de Washington à Paris en passant par le Vatican où le pape s'est dit être c'est dit très affligé à l'issue de la prière de l'Angélus aujourd'hui. Fin de ce bulletin d'information, le prochain dans 55 minutes.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, un plaisir de vous retrouver dans ce dialogue des religions sur VOA Afrique. Eric Mandatiza en votre compagnie depuis Washington DC. Lionel Bounenga-Gahima assure la mise en ordre. Le Misbaha ou Masbaha, également appelé Sabha, Sibha, Subha ou encore Tasbih selon les régions, et le chapelet musulman utilisé pour réciter le dhikr comprenant les 99 noms d'Allah ainsi que pour la glorification de Dieu. Le Misbaha est souvent fait de perles de bois, mais il peut aussi être constitué d'ivoire, d'ambre, de perles ou matériaux moins nobles comme la laine. Nous en parlons dans un instant avec notre invité. Ce soir, nous recevons l'imam Omar Adien depuis Dakar. Bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Bienvenue dans le dialogue des religions.
Merci, tout le plaisir est pour moi de participer à l'émission.
Ça faisait très longtemps, la dernière fois c'était avant le confinement.
Effectivement, c'était avant le confinement, l'obligation l'oblige. Eh bien, donc maintenant qu'on a un peu espoir et que tout reprend, ben, nous aussi on reprend les émissions et nos activités.
J'espère que vous vous portez bien ainsi que votre famille.
Merci, merci, je me porte à merveille, ainsi que toute ma famille. Merci bien.
Imam Dien, est-ce que tout musulman est censé savoir réciter le chapelet et à partir de quel âge?
Oui, tout musulman doit le connaître normalement parce que après la prière, c'est des invocations. Donc à l'âge de 13 ans, 14 ans déjà, on s'inspire, on est initié pour les prières sur l'oratoire, donc sur les noms de Dieu qui définissent les règles par 33 fois 3, donc ça fait 99. Donc, on les a mis dans un diminutif de condescension pour évoquer Dieu après les prières, quelquefois avant les prières, ou même quand on appartient à des tarikhas, c'est-à-dire des sectes secondaires de la religion musulmane, on utilise des nombres pour évoquer Dieu ou bien formuler des prières à son égard et pour ses propos personnels.
Et à quel moment particulier de la journée faut-il s'en servir?
Bon, pour le rythme malikite, qu'on prie 5 fois dans la journée, donc après chaque prière, on fait son chapelet de 3 fois 33, c'est-à-dire 99, Subhanallah, Walhamdulillah, Wallah ilaha illallah, Wallahu Akbar, c'est-à-dire, c'est des invocations divisées par 3 que le musulman fait pour rendre grâce à Dieu. Et puis, comme Dieu est le maître de l'histoire et le seigneur de l'humanité, donc lui rendre grâce et puis démontrer de sa présence pour être connoté, pour être rétribué le jour de la résurrection.
Et vous, c'est à partir de quel âge que vous avez commencé à réciter le chapelet?
Oh, moi j'ai commencé déjà à l'âge de 11 ans. J'ai commencé à l'âge de 11 ans, comme on avait un dara, c'est-à-dire une école coranique, dans notre maison. Donc on priait en groupe et chaque fois qu'on finissait de prier, chacun avait son chapelet et notre maître ou bien notre instituteur ou notre enseignant nous initiait à ça. Donc on a pris l'habitude, jusqu'à présent on le fait. Et ça nous rend très confort, ça nous renforce aussi et ça purifie notre corps, notre âme et notre croyance en Dieu.
Est-ce qu'il est utilisé de la même manière selon les pratiquants?
Oui. Dans le général, presque oui, parce que le nombre de perles est égal à 99. Bon, maintenant, quand on est... Ça, c'est la prière des rituels de cinq prières du jour. Mais il y a des recommandations particulières de chaque tarikha. Tarikha, c'est les sectes secondaires qui sont dans la religion musulmane. Qui peut être Tidjan, Mourid, Khadr, ou bien musulman simple. Mais les nombres sont faits pour invoquer Dieu de toute façon. On peut faire 12 ici, 15 là-bas, 22 dans un autre, mais chaque fois par des termes bien définis, à des heures aussi bien définies. Quand on appartient à la secte, il y a un rituel qu'on te donne, un tableau que tu dois faire au moins une fois par jour ou bien deux fois dans la possibilité, ou le matin ou le soir. c'est-à-dire la prière de 6h du matin et la prière de 17h, ou bien la prière de 6h du matin, 17h et 22h. Si vous les faites trois fois par jour.
Oui, on sait qu'il y a des musulmans sunnites, des musulmans chiites. Est-ce que vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde sur la signification du chapelet?
Oui, les chiites et les sunnites, bon, c'est des trucs arabes en général. Mais nous, en Afrique noire, nous sommes dans le rite malikite. Ce n'est pas malik comme on l'appelle. Mais les chiites ont leur chemin aussi. Mais tout va vers Dieu. C'est une invocation qu'on récite pour se retrouver après. Mais toutes les prières, le chapelet est composé de 99 prêtres, de toute façon, et chacun a sa manière d'invoquer Dieu sur le nombre, sur les noms aussi. Donc, chaque rituel a son nombre à faire. Tu peux l'appeler ainsi.
Qu'est-ce que le tasbih en islam?
Le tasbih, c'est l'invocation du nom de Dieu. C'est-à-dire, Allahu Akbar, Dieu est grand, ou Dieu est le meilleur, ou Dieu est le plus juste des juges, ou Dieu est le plus gentil, ou Dieu est le voyant. Le tasbih, c'est l'invocation du nom de Dieu. Alors, il y en a 99.
99 noms divins. Ou
ouais,
c'est le
99
nom
de Dieu, oui. Le nom divin de Dieu. Voilà, d'accord.
Qu'on utilise encore de prière, de glorification, n'est-ce pas, comme vous venez de le dire, loué soit le Seigneur.
Oui, tous se ressemblent tous, parce que le 99 nom de Dieu répond à Dieu. Et c'est que Dieu que nous évoquons, bon, dans les recherches, ceux qui sont dans les sectes ou bien dans les rites, donc ont des références. C'est pas à travers ces références qu'ils ont concocté quelque chose que tu dois réciter si tu appartiens à cette tariqa, c'est-à-dire à cette loge ou bien cette endroit en groupe. Parce qu'il y a beaucoup de groupes de savants et d'écoles. Et chaque école a ses principes et ses caractéristiques de recherche pour invoquer Dieu.
Est-ce que c'est une obligation, par exemple?
Oh non, quand on fait une option, ça devient une obligation. Mais Dieu, dans le Coran, nous dit, l'islam est une religion qui ne s'impose à personne. C'est une religion de tolérance, c'est une religion d'acceptation. Et Dieu nous dit, il ne nous met pas devant des conditions difficiles. Ce qui est le plus important, c'est la prière et l'invocation de Dieu, à sa manière. Maintenant, si vous appartenez à un secte ou bien d'une école ou bien d'un rite, eh bien, vous adoptez cette prière, cette formulation du nombre, et puis ça vous purifie l'âme, ça vous purifie votre foi en croyance en Dieu. Et quand vous le faites, vous vous sentez impliqué, vous vous sentez libéré, vous vous sentez ennoté. Donc c'est ça, ça que ça sert. Parce que Dieu veut qu'on ait tout le temps.
Est avec vous à la présentation. Notre invité, c'est l'imam Omar Dien à Dakar. Nous avons quelques commentaires des auditeurs. Il y en a qui dit « L'utilisation du chapelet est généralement tolérée, mais il ne faut pas en faire une fin en soi. S'il n'y a pas de chapelet, cela ne doit pas empêcher de dhikr. Son utilisation n'est là que pour permettre de compter le nombre de fois où l'on répète oui. Le dhikr. Par ailleurs, le chapelet oui. N'est qu'un objet, on le porte et on le manipule avec ou sans ablution, comme une casserole, une pierre ou une brosse à dents. Ce n'est qu'un objet également, on peut accomplir le dhikr sans ablution, même s'il vaut mieux les avoir. Votre commentaire, Imam Dien.
Bon, de préférence, il faut le faire avec quand on est propre, quand on n'est pas souillé. Parce que la prière, quand on le fait, on invoque Dieu. Et Dieu aime ce qui est pur, ce qui est propre et ce qui est clean, comme on dit. C'est tes préférences. Ça ne t'empêche pas de le faire. Quand tu en as envie, tu le fais. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une science qui t'accompagne, qui te motive, qui augmente ta motivation envers Dieu, ton adoration aussi envers Dieu. Et ça le permet. Donc, c'est la prière seulement qui peut faire ses ablutions. C'est obligatoire. Quand il n'y a pas d'eau aussi, il y a des actes secondaires qu'il faut procéder pour y passer. Mais quand on fait son chapelet, ce n'est pas impératif. Donc il y a les tolérances qui y sont.
Nous avons un deuxième commentaire. Nul doute qu'invoquer Allah en comptant le tasbih avec la main est meilleur que de le faire en se servant d'un chapelet sous bras. Il est certifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptait le tasbih avec sa main. C'est Abu Daoud qui le dit, imam Dien.
Oui, le prophète le faisait avec ses mains. C'est-à-dire le prophète n'est pas comme nous, comme on dit, parce que celui qui nous a enseigné la prière, on peut le faire avec ses doigts ou en comptant sur les traits de ses deux mains. Ça fait, tu le fais trois fois, ça nous sert de chapelet. Parce que le chapelet, en fait, ne sert qu'à compter, pour ne pas se tromper du nombre. Quand tu le fais avec tes doigts, il faut que tu sois concentré. Vous voyez que si vous tendez votre main, il y a quatre fois trois, ça fait 12 plus 2, ça fait 14. Vous le faites deux fois, c'est 28. Et vous y ajoutez 5, ça fait 33, n'est-ce pas? Donc, il est plus facile de le faire avec un chapelet sans arrêt, parce qu'il y a des intervalles, 33, vous mettez 33, il y a un intervalle qui est là, ou bien une perle qui est plus grosse ou plus petite pour marquer que vous avez terminé le nombre 33. Vous en faites 33 autres, la même chose se répète, vous restez 33 autres et puis c'est terminé. Donc, vous invoquez Dieu maintenant avec la grosse perle qui sert de point central du chapelet. Donc, le faire avec les doigts, c'est pareil, c'est compté. Et comme le chapelet est venu après, bon, c'est une addition qui nous permet de compter pour ne pas nous tromper en nombre que nous faisons. Parce que c'est difficile de se concentrer quelquefois pour avoir le nombre exact. On ne sait pas si on a réussi ou pas, si on a le nombre ou pas, quand on le fait avec les doigts. Donc, mieux vaut avoir un chapelet qui te guide et tu sauras que tu as atteint le nombre. C'est l'essentiel. Le rôle du chapelet, c'est ça.
Notre invité, c'est l'imam Omar Dien à Dakar. Un musbaha est normalement constitué de 99 perles. Imam Dien, dans le monde soufi, certains chapelets sont composés de 100 perles. Pourquoi?
Non, parce qu'il y a un cinquième. Le cinquième sert à faire une résolution, la prière de résolution, maintenant qu'on l'attribue à Dieu. Là, Dieu, c'est-à-dire l'unique, cette perle est plus grosse, plus longue en général, mais ça marque la fin de la prière. Et arrivé au 99e, c'est le cinquième qui boucle le cheminement de ce que tu connais. Donc le cinquième, maintenant on en appelle à Dieu pour lui demander de nous rétribuer ce qu'on lui a offert, ou ce qu'on lui a donné, ou ce qu'on a fait un jour. Qu'on sera dans notre tombe. Et puis, on peut faire des prières d'exhaustion, des vœux qu'on veut sur la vie ici sur Terre, sur ses projets, sur sa famille, sur ses proches, prier pour les morts, prier pour le pays, prier pour l'hivernage, prier ensuite pour l'économie, ça dépend même pour faire disparaître la pandémie qui nous habite depuis quelque temps. Donc, cette prière, le cinquième fait, sert à ça. Appeler Dieu à nous secourir ou bien à nous assister dans cette cinquième perle qu'on les consacre uniquement et qui est la résolution des 99 cités déjà. Perle va représenter un nom de Dieu. Donc sur les 99, il y a des diminutifs par lesquels on procède qui sont des raccourcis pour dit Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wala al-Fadir et le plus grand.
Donc vous parlez d'invocations qui peuvent aider à sortir d'une situation difficile.
De partout, de n'importe quoi, de toute la vie, de toutes nos composantes. Par exemple, à cette période-ci, on prie pour l'hivernage. Bientôt la Tabaski, bientôt la Hajj, bientôt. Donc les cycles de la vie font que chaque fois il faut invoquer Dieu, parce que Dieu nous a recommandé dans le Coran de toujours penser à lui, celui qui nous a créés. Et c'est à lui que nous sommes venus ici, c'est de lui que nous retournerons au jour. C'est de la terre que nous a créé, et c'est de la terre que nous retournerons au jour. C'est pourquoi quand on prie, on fait deux fois qu'on s'accomplit, qu'on se relève, qu'on met notre front à terre, qu'on se relève, qu'on le remette à terre, qu'on se relève. Donc c'est de la terre qu'on était venu, et c'est de la terre que nous retournons. Donc il y a des signes de la prière qui ressemblent à ce qu'il nous a enseigné. Donc, c'est pourquoi nous utilisons le chapelet pour l'invoquer tout le temps, comme il nous l'a recommandé et demandé, pour avoir son pardon et ses préférences et le bonheur qui nous attend.
Est-ce que l'origine de la Misbaha est bien connue? Il y en a qui disent qu'elle pourrait être une importation datant de la première croisade ou provenant d'Inde. Est-ce que l'origine de la Misbaha est bien connue?
Bon, ça dépend des pays, parce que les écoles sont différentes. Les écoles sont différentes et les invocations sont différentes aussi. C'est pourquoi ce qui arrive, vous avez vu, il y en a qui ne veulent pas de chapelet, il y en a chez qui c'est interdit, il faut prendre les doigts de la main, il y en a chez qui c'est permis, il y en a chez qui c'est même adoré. Donc, il n'y a pas d'interdiction, chacun fait à sa manière. La connaissance, c'est-à-dire que nous, par exemple, en Afrique, on nous a importé la religion, mais nous sommes régis par le rythme magnétique en tant que général. Maintenant, vous avez vu qu'il y a d'autres sectes qui sont venus. Récemment, il y a d'autres écoles aussi qui sont nées après. Et chacun fait la même chose, mais dans la diversité culturelle et sociale. Mais toujours, on évoque Dieu à travers ce chapelet. Mais il y en a chez qui préfèrent le faire seulement par le doigt, comme les Ibadou, comme les Druk. Donc, eux, c'est interdit de mettre des chapelets. Parce que eux, c'est Dieu seulement. On ne peut pas mettre un chapelet en bois ou bien en or. Parce qu'il y en a qui le font aussi avec des autres. Ici, le porc, et le porc est un animal qui n'est pas accepté par l'islam. Quelquefois, c'est fait avec des os de cheval. Quelquefois, c'est fait avec des os de bœuf. Alors, il y a beaucoup, quelquefois, c'est fait en or ou en argent, ou en perles fondues, ou en, comme on appelle, des trucs d'arbres. Des noix de dattes, des noix de figues, des noix de figues, des noix de date, des noix de papaye, des noix de d'avocat. Il y en a plusieurs. L'essentiel est de compter sur le nombre.
Est-ce que l'utilisation d'un chapelet à Soubra pour compter le tasbih fait l'objet d'une divergence d'opinion entre les ulémas? Certains ulémas l'ont approuvé, tandis que d'autres l'ont abhorré. Vous sauriez pourquoi?
Oh non, parce que c'est les écoles. Comme de toute façon, c'est les écoles qui les différencient. C'est les écoles qui les différencient. Donc, les gens, en général, l'acceptent, comme je vous disais tantôt. Ça sert généralement à compter. C'est le plus important d'avoir le nombre de l'invocation qu'on va faire.
Est avec vous à la présentation. Notre invité, c'est l'imam Omar Dien à Dakar. Quel est l'avis religieux relatif à l'usage du chapelet pour le dhikr?
Ça nous accompagne, c'est une tolérance, c'est un compagnon de cheminement. Donc ça accompagne l'humain, ça accompagne le musulman, ça accompagne à des temps libres, ça peut t'occuper au lieu de faire son temps, tu peux faire des dhikrs. Et les dhikrs, nous attendons de ces dhikrs qu'on soit rétribué un jour, le jour du jugement dernier. Il permet aux musulmans de se purifier, de purifier son âme et d'être rétribué le jour du jugement dernier. Et que tout musulman veut aller au paradis, donc on veut avoir Dieu à son côté et l'implorer tout le temps. C'est pourquoi nous avons tout le temps nos chapelets dans nos poches ou autour du cou, ou bien au bureau, ou dans la salle de prière. En tout cas, on l'a partout, on a, ça nous accompagne discrètement, bien sûr.
On parle des hadiths au sein de la religion musulmane. Hafez As-Suyuti, il dit que Allah lui a accordé sa miséricorde en disant « Si l'usage du chapelet n'est qu'une imitation de nos maîtres et une sollicitation de leur bénédiction, on se contentera de cette raison pour l'utiliser. Or, le chapelet, en plus, nous rappelle l'invocation d'Allah. Il n'arrive que rarement qu'un homme le voit sans évoquer Allah. Et en cela réside l'un de ses plus importants intérêts. C'est pourquoi certains prédécesseurs l'ont dénommé la miséricorde d'Allah, le Très-Haut. Personne n'a rapporté que l'un des prédécesseurs ou des successeurs a interdit l'évocation d'Allah à l'aide du chapelet. Par contre, nombreux sont ceux qui ont approuvé l'usage du chapelet. Allah seul le sait par excellence. C'est ce qu'on dit. Imam Dien, on parle du chapelet chez les catholiques. Il y a le chapelet aussi. Et on voit aussi le mot miséricorde, les deux fois se rapprochent.
Absolument, absolument. Chez les chrétiens, vous avez vu, ou bien on le constate, ils ont un chapelet. Bon, moi je ne maîtrise pas peut-être principalement ce chapelet de l'Église, mais je sais que ça leur sert aussi de prière, ça leur permet d'invoquer. C'est la même chose que les musulmans, ça se fait dans la concentration, comme chez les musulmans. C'est des invocations qu'on récite pour prier par foi, pour prier par amour, pour prier par conscience, pour prier par appartenance. Donc, en tout cas, ça nous rapproche de Dieu et ça nous permet aussi de nous rapprocher de Dieu parce que ça nous permet de, comme si on communiquait avec Dieu. Quand on fait son chapelet, quand on égrène son chapelet, on a l'impression ou bien on sent qu'on est en communion et puis en réseau, comme on peut l'appeler certainement s'il faut, avec Dieu qui nous écoute et qu'on l'implore, c'est des demandes de pardon, c'est des demandes de grâce, c'est des demandes d'adoration, c'est des demandes qu'on fait discrètement et que Dieu nous a demandé de faire, c'est-à-dire de l'implorer tout le temps et toujours.
Que faut-il encore savoir du chapelet musulman, Imam Omar Dien?
Je vous ai presque tout énuméré. Elle est composée de 99 perles, sert à réciter les formulations du zikr, invocation à Dieu après les prières, utilisées par les tariqas pour implorer Dieu, pour ses vœux personnels, ses prières personnelles, pour prier pour les moines, pour prier pour nous. Et le chapelet nous rapproche de Dieu et nous permet de le glorifier. Il permet aussi aux musulmans de se purifier l'âme, faire à compter. Généralement, elle est constituée de perles sur un cordon. Aussi bien pour les musulmans, peut-être que pour les chrétiens en général, objet de dévotion religieuse. Donc le chapelet est notre compagnon à une succession de notre vie. Elle nous guide une fois vers Dieu, elle nous donne envie d'aimer Dieu et elle nous met en mode wifi pour rencontrer, pour avoir le réseau de Dieu, si on peut l'appeler ainsi.
Nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Merci à tous de nous avoir suivis. Imam Omar Dien à Dakar, merci pour vos explications.
Merci Eric, tout le plaisir est pour moi.
Que Dieu vous bénisse.
Et salut les auditeurs et nous donne rendez-vous très prochainement.
Merci, que Dieu vous bénisse.
Merci Eric, à vous aussi. À bientôt.
Dieu aide Rosanie Lagarima à assurer la vie dans le monde. La présentation, Eric Omanirakidba. Excellente soirée à tous. À la prochaine.